Ah, messire Varret, vous vous trouvez bien. Et vous tous, messire consul, dit le comte de Poitiers. Nous allons pouvoir vous remettre séant le message que nous nous apprêtions à vous faire tenir. Messire Mills, veuillez lire. Mills de Noyers, qui avait été conseiller au Parlement et maréchal de Lost sous Philippe le Bel, déploya un parchemin et lut. À tous les baillis, sénéchaux et conseils des bonnes villes, nous vous faisons savoir la grande déploration que nous avons de la mort de notre frère bien-aimé, le roi, notre sire Louis Xe, que Dieu vient d'enlever à l'affection de ses sujets. Mais la nature humaine est faite ainsi que nul ne peut dépasser le terme qui lui est assigné. Aussi avons-nous décidé de sécher nos larmes, de prier avec vous le Christ pour son âme, et de nous montrer empressés au gouvernement du royaume de France et du royaume de Navarre, afin que leurs droits ne dépérissent pas et que les sujets de ces deux royaumes vivent heureux, sous le bouclier de la justice et de la paix. Le régent des deux royaumes, par la grâce de Dieu. Philippe. Le premier émoi passé, messire Varret vint aussitôt baiser la main du comte de Poitiers et les autres consuls l'imitèrent sans hésitation. Le roi était mort. La nouvelle en soi était assez stupéfiante pour que nul ne songeât, au moins pour quelques minutes, à se poser de questions. En l'absence d'un héritier majeur, il semblait parfaitement normal que le plus âgé des frères du souverain assurât le pouvoir. Les consuls ne doutèrent pas un instant que la décision n'eût été prise à Paris par la Chambre des Pairs. « Veuillez faire crier ce message par la ville, » ordonna Philippe de Poitiers, « après quoi les portes seront aussitôt ouvertes. » Puis il ajouta, « Messire Varret, vous êtes puissant au négoce des draps. Je vous serai gré de me fournir 20 manteaux noirs à déposer dans mon antichambre pour encouvrir les gens qui viendront me présenter leur douloir. » Et il congédia les consuls. Les deux premiers actes de sa prise de pouvoir se trouvaient accomplis. Il s'était fait proclamer régent par son entourage, qui devenait du même coup son conseil de gouvernement. Il allait être reconnu par la ville de Lyon où il résidait. Il avait hâte maintenant d'étendre cette reconnaissance à l'ensemble du royaume et de placer Paris devant un état de fait. Le succès résidait dans la vitesse. Déjà les copistes reproduisaient à multiples exemplaires la proclamation et les chevaucheurs sellaient leurs chevaux pour aller la répandre dans toutes les provinces. Aussitôt les portes de Lyon rouvertes, ces chevaucheurs s'élancèrent, se croisant avec 3 courriers retenus depuis le matin en deçà de la Saône. L'un des courriers acheminait une lettre du comte de Valois par laquelle ce dernier se posait en régent désigné et demandait à Philippe une ratification de bonne forme afin que la désignation devint effective. « Je suis assuré que vous voudrez aider à ma tâche pour le bien du royaume et me donnerez au plus tôt votre agrément en bon et bien-aimé neveu comme vous l'êtes. » Le second message venait du duc de Bourgogne qui réclamait lui aussi la régence au nom de sa nièce, la petite Jeanne de Navarre. Enfin, le comte d'Évreux avertissait Philippe de Poitiers que les pairs n'avaient pas été réunis selon les us et coutumes et que la hâte de Charles de Valois à se saisir du gouvernement ne s'appuyait sur aucun texte ni aucune assemblée régulière. Le comte de Poitiers, au reçu de ces nouvelles, se remit à siéger avec son entourage. Dans ce conseil ne figuraient pratiquement que des hommes hostiles à la politique suivie depuis 18 mois par le Hutin et le comte de Valois. Philippe de Poitiers, connaissant leurs mérites et leurs capacités, avait choisi de se les adjoindre dans les difficiles négociations qu'il devait mener avec l'Église. Tel était le connétable gaucher de Châtillon, qui ne pardonnait pas la ridicule campagne de Lostbueux, qu'il avait dû conduire en Flandre l'été précédent. Tel était Mills de Noyers, proche parent de Gaucher. Tel encore Raoul de Presles, légiste de Philippe le Bel, que Valois avait fait arrêter en même temps qu'Enguerrand de Marigny, et qui devait sa libération et son retour en grâce au comte de Poitiers. Aucun d'eux ne considérait d'un bon œil les ambitions de Valois, ni ne souhaitait non plus que le duc de Bourgogne se mêlât des affaires de la couronne. Ils admiraient la rapidité avec laquelle le jeune prince avait agi, et ils plaçaient en lui leurs espoirs. Poitiers écrivit à Eudes de Bourgogne et Charles de Valois sans mentionner leurs lettres et comme s'il ne les avait pas reçues, afin de les informer qu'ils se considéraient régents par droit naturel et qu'ils réuniraient l'assemblée des pairs afin de sanctionner cette situation aussitôt qu'il lui serait possible. En même temps, il désignait des commissaires pour aller dans les principaux centres du royaume prendre possession du commandement en son nom. Ainsi partirent, dans la journée, plusieurs de ses chevaliers comme Regnault de l'Or, Thomas de Marfontaine et Guillaume Courteuse. Il garda auprès de lui Anceau de Joinville, le fils du vieux sénéchal, et Henri de Sully. Tandis que le glas sonnait à tous les clochers, Philippe de Poitiers conféra seul à seul avec Gaucher de Châtillon. Par droit, le connétable de France siégeait à toutes les assemblées de gouvernement, chambre des pairs, grand conseil, conseil étroit. Philippe demanda donc à Gaucher de se rendre à Paris pour le représenter et s'opposer jusqu'à sa propre arrivée aux entreprises de Charles de Valois. Le connétable, d'autre part, s'assurerait d'avoir bien en main les troupes à solde de la capitale, et particulièrement le corps des arbalétriers. Car le nouveau régent, à la surprise d'abord, puis à l'approbation de ses conseillers, avait résolu de demeurer provisoirement à Lyon. « Nous ne devons pas nous détourner des tâches en cours, » déclara-t-il. « Le plus important pour le royaume est d'avoir un pape, et nous serons d'autant plus forts quand nous l'aurons fait. » Et il pressa la signature du contrat de fiançailles entre sa fille et le Dauphinet. L'affaire à première vue n'avait aucun rapport avec l'élection pontificale. Mais pour Philippe, l'alliance avec le dauphin de Viennois, qui régnait sur tous les territoires au sud de Lyon, était une pièce de son jeu. Les cardinaux, s'il leur prenait désir de lui échapper, ne pourraient pas se réfugier de ce côté-là. Il leur coupait la route d'Italie. En outre, ses fiançailles consolidaient sa position de régent. Le dauphin se rangeait dans son camp. Le contrat en raison du deuil fut signé sans fête dans les jours qui suivirent.